Merci à vous d'être à l'écoute de Radio Théolis, une émission particulière avec un invité particulier. Nous évoquons l'eschatologie. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Plus d'explications avec notre invité dans une poignée de secondes. Bougez pas. Restez connectés au monde. Radio Théolis.
Let the Redeemer, the Lord, tell the stories. By his grace we are walking testimonies. For thine is the kingdom and the glory. And we'll praise you, Lord, forever, because you're holy, yeah.
Radio Théolis. Bonjour Monsieur Daniel Eclos, nous sommes heureux de vous recevoir en ce jour sur Radio Théolis. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots aux auditeurs de Radio Théolis.
Bien bonjour monsieur et bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio Théolis. Alors, comment me présenter dans des termes aussi courts? Je pense que ceci pourrait nécessiter toute une émission de plusieurs heures. Non, je plaisante. Néanmoins, la description que je vais faire ici de moi-même sera nécessairement partielle et partiale. Alors, je suis Yahweh Daniel Eclos. Je suis né à Lomé en 1973 et en toute humilité, je suis le fruit réussi d'un papa togolais du Wawa et d'une maman française des Antilles. Alors, dans un premier temps, après des études de droit, j'ai été appelé pour faire mon service militaire en France, engagement que j'ai poursuivi 10 ans comme sous-officier dans l'armée de terre. D'abord comme instructeur militaire dans un régiment de soutien logistique du sud de la France, puis après en tant que juriste dans une direction des ressources humaines au ministère français de la Défense. Après 10 ans de ce régime militaire, j'ai bifurqué par un concours vers la fonction publique civile en devenant directeur administratif et financier au sein de l'éducation nationale pour laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans en alternant des postes tant en France qu'à l'étranger. Je suis maintenant depuis quelques années consultant SAP, un logiciel de gestion des entreprises.
Pouvez-vous expliquer aux auditeurs de Théolis quelle est votre part d'africanité et quelle est votre part d'occidentalité?
Alors monsieur, je vois clair dans votre jeu, vos questions sont faites pour me déstabiliser. En fait, à vrai dire, je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Je suis né français et je suis né togolais. De même que l'enfant ne peut choisir entre son papa et sa maman, je ne peux choisir entre la France et le Togo. Entre la part de culture française et la part de culture togolaise en moi. Je crois que c'est du 50-50 dans mon cœur. Ou plutôt du 51-49 dans mes sentiments. Sachant que jusqu'à plusieurs fois par jour, je peux me sentir tantôt plus togolais que français et vice-versa. Non, très franchement, je suis les deux à la fois. Je n'ai aucun complexe à l'assumer. Et c'est d'ailleurs en vérité une triple culture, à la fois africaine, antillaise et française en moi, qui fait ce que je suis et qui fait que je suis totalement à mon aise dans ces différents univers culturels, car leur appartenant totalement. Je vais vous raconter une petite anecdote qui illustre quelque peu ma pensée. En 1997, j'étais en République centrafricaine, j'étais soldat français mis à disposition de l'OUA. Mon travail consistait à ravitailler les contingents de l'OUA, dont un contingent de militaires togolais qui était là. Mes chefs voyaient comment naturellement j'étais chaleureux envers mes frères d'armes togolais, et un soir, mon propre chef de section s'est senti le besoin d'éprouver ma fidélité à la France. Et les yeux dans les yeux, il m'a demandé, mais Eclos, si un jour il y a la guerre, France contre Togo, quel camp choisiras-tu? Je lui ai répondu ceci. Mon adjudant-chef, ce jour-là, que Dieu nous en garde, vous pouvez être certain que je choisirai un camp, ce sera celui de la justice. Voilà, monsieur. Très franchement, je n'ai pas de souci particulier à être un patriote togolais et un patriote français en même temps. Et au point de vue culturel, bon, c'est la même chose. Il n'y a pas de contradiction, ni de dualité en moi, entre mes deux cultures. Je me suis toujours considéré riche des deux. D'ailleurs, comme des autres apports qui me viennent d'autres cultures. Comme par exemple, on peut parler des apports qui me viennent de la culture de mon conjoint. En somme, la culture en moi, ce ne sont pas des oppositions, ce sont des accumulations.
Voilà. Connaître quelqu'un, c'est d'abord comprendre sa part d'éternité. Que souhaiteriez-vous que les prochaines générations se souviennent de vous? Quelles traces souhaiteriez-vous laisser à l'humanité?
Encore une question piège. Je suis encore au tout début de ma jeunesse et vous me parlez déjà de mon héritage. Non, plus jeune, c'est vrai. J'avais des rêves de gloire. Je voulais marquer l'humanité de mon empreinte, laisser une trace. Non, peut-être comme tout le monde, hein. Je pense ça. À la rigueur, pour moi, à l'époque, peu importait le domaine, hein, que ce soit un découvreur, le premier Togolais sur la Lune ou un conquérant farouche. Bon, aujourd'hui, avec l'âge, je pense que ce que je dois viser et ce qu'il faut viser, en fait, ce n'est pas tant de laisser une trace dans l'humanité que de se laisser marquer par l'humanité. Je m'explique. Faites le constat. Nous avons tous des proches que nous aimions et que nous avons perdus, qui ont laissé des biens derrière eux. J'ai bâti des maisons, une voiture, des terrains, un champ, qu'importe. Quand aujourd'hui vous pensez à ces proches chéris et ce que sont leurs réalisations matérielles, est-ce que ce sont leurs réalisations matérielles qui vous émeuvent? Non. Ce qui nous émeut à leurs tendres souvenirs, ce sont leurs sourires, leurs rires, les tendres paroles qu'ils nous ont laissées, les marques de leur amour pour nous et de notre affection pour eux. Il n'y a rien de matériel. Alors, dans ces conditions, que léguer à l'humanité sinon ma pauvre condition d'homme? Je suis juste un homme qui est venu, qui a cherché à connaître Dieu, qui a traversé la vie en essayant de, comme je dis, de défendre la vérité, la bonté et la justice, psaume 45. Oh, je ne suis pas souvent arrivé, hein, je me suis sans doute plus souvent plus égaré, je n'ai pas été sur le chemin, je n'ai pas toujours été sur le chemin, mais au moins, j'aurais essayé. Alors, au final, je crois profondément, un peu à la manière d'un Cupidon, que c'est en visant le cœur des hommes qu'on laissera une trace dans l'humanité. Ce ne sera pas la plus profonde, ni sans doute la plus durable, mais ce sera la plus belle.
Présentez-nous le voyage dans lequel vous comptez nous emmener en ce jour.
Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers l'eschatologie chrétienne, et tout particulièrement catholique, à l'aune de quelques apparitions mariales et révélations publiques ou privées.
Pourquoi ce voyage vous tient-il à cœur, Daniel Eclos?
Je pense que, certes, dans la tradition chrétienne, Dieu ne cesse jamais de parler à son peuple. Et la force de l'Écriture, c'est son caractère prégnant et actuel. Chaque génération croit et est certaine que le message de Dieu est pour elle-même aujourd'hui, alors qu'il a été écrit il y a des millénaires pour certains textes. Ce voyage dans l'eschatologie que je vous invite à faire avec moi me tient à cœur parce que je veux souligner l'importance de son actualité aujourd'hui, à l'heure d'une crise planétaire sans précédent qui va très certainement engendrer un grand changement de paradigme.
Vous avez plusieurs fois emprunté le chemin de Compostelle, un lien avec le voyage que nous empruntons en ce jour?
Oh oui, c'est vrai, je suis un pèlerin de la vie et un pèlerin de Compostelle. C'est un des plus vieux pèlerinages chrétiens d'Europe, hein, puisqu'il remonte au moins au Xe siècle. Il consiste à rejoindre, le plus souvent à pied d'ailleurs, la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle, tout à l'ouest de l'Espagne, où se trouvent les reliques de l'apôtre Jacques. C'est un merveilleux pèlerinage, hein, parce qu'il allie une translation horizontale, le fait de marcher vers un but précis, à une translation verticale, le fait de se rapprocher de Dieu, ou plus exactement, que Dieu se rapproche du pèlerin. Car s'il y a une sensation forte que le pèlerin ressent, alors c'est bien celle de ne jamais se cheminer seul. Alors, par-delà la douleur, bon, parce qu'il faut marcher 20 à 30 km par jour quand même, idéalement, hein, et ce pendant plusieurs dizaines de jours, hein, selon votre lieu de départ, c'est une vraie joie, une vraie, véritable expérience spirituelle, et sans doute aussi une expérience pénitentielle quand même, il faut l'avouer. Mais Compostelle, c'est un chemin de vie avec ses hauts, avec ses bas, ses doutes, et ces moments de ferme assurance. C'est aussi un chemin d'espérance, et en ce sens, les messages prophétiques de notre Dieu sur la fin dernière, et notre propre fin, sont autant de bornes kilométriques qui rythment, qui guident et éclairent notre propre chemin de vie.
Quelles sont les étapes que vous comptez nous faire franchir dans ce voyage aujourd'hui?
Ce que je vous propose, c'est que nous voyons, dans un premier temps, en quoi l'eschatologie peut nous aider à appréhender le monde, et puis dans une deuxième partie, quelle est la force de l'actualité eschatologique.
C'est quoi exactement l'eschatologie, Monsieur Daniel Eclos?
L'eschatologie, on va jouer les savants quelques minutes. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin dernière. Le mot vient du grec eschatos, dernier, et de logos, la parole ou l'étude. C'est donc l'étude philosophique ou théologique de la fin des temps derniers, voilà. Alors, bien évidemment, ce n'est pas l'apanage du christianisme. Il existe une eschatologie hébraïque, islamique, voire bouddhiste et hindouiste. Mais ici, je vais me restreindre mon propos à l'eschatologie chrétienne et même catholique. Je tiens à préciser ici, tout de suite, que je suis un simple laïc catholique et que mon propos ne saurait engager que ma propre personne. Je vais me restreindre à des révélations publiques validées par l'Église catholique romaine, mais je pourrais à l'occasion faire appel à des révélations privées qui n'ont pas reçu le blanc-seing de l'Église. Donc j'appelle donc chacun au discernement, dans tous les cas. Ceci étant dit, quand on parle de fin du monde ou de fin des temps, le fidèle pense instinctivement au livre de l'Apocalypse de Jean, et a raison. Mais le texte rebute par son côté obscur, mystérieux, voire effrayant. Comme a dit un ami, si on l'a mis à la fin de la Sainte Bible, c'est pour qu'on puisse aisément le laisser de côté. Alors certes, le texte n'est pas d'un abord facile, mais il a un avantage réel, celui de nous rappeler la finitude de nos vies. Car dans l'Apocalypse de Jean, Dieu semble en effet embrasser du même regard toutes nos fins en même temps. Fin de nos vies d'hommes, fin d'une génération, fin d'un monde, et fin dernière du monde. Ces trois fins, qui nous semblent à nous, humains, très différentes, semblent n'en former qu'une aux yeux de Dieu. Alors, devons-nous avoir peur de l'Apocalypse de Jean ? Je ne crois pas, car elle s'achève sur une formidable espérance, le règne du Christ et les 1000 ans de paix, et aussi parce que nous, hommes, nous jouissons de la liberté concédée par le Seigneur et avons la possibilité de créer notre destin individuel et collectif. C'est Ninive. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive pour les prévenir de sa colère face à son péché, vous vous souvenez, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Mais que se passe-t-il ? Les habitants chefs en tête se lancent dans des actions de grâce et de jeûne, des pénitences, de sorte que Dieu lève sa sentence. Rien aux yeux du Seigneur n'est figé. Ou plus exactement, comme on dit, les bénédictions du Seigneur sont absolues, ses malédictions sont relatives et dépendent de notre attitude. Ainsi donc, il faut prendre le dernier livre au sérieux et se l'approprier, car c'est une aide pour s'approprier le monde.
Mais comment l'eschatologie est une aide ?
Vous me direz, je suis à peine dans la force de l'âge, à quoi bon étudier ce qui adviendra à ma fin ? Mais d'abord parce que bizarrement, ma fin viendra toujours plus tôt qu'espéré, et parce que ma fin se prépare justement aujourd'hui, dans l'espérance. Ainsi donc, en levant un voile du coin sur ce qui se passe après la vie terrestre, l'eschatologie personnelle, en un sens, je pense, calme l'angoisse de la mort en nous disant que certes, il y a le jugement, certes, il y a les flammes de l'enfer, certes, il y a tous ces châtiments comme une épée de Damoclès au-dessus de nos vies, mais oui, grand oui, nous pouvons être sauvés. Entre autres, en nous conformant aux 71 autres livres qui précèdent l'Apocalypse. Donc, il est intéressant de noter que lors des apparitions mariales, Notre-Dame donne souvent une vision de l'enfer aux voyants. Et tous en sont fortement frappés. L'enfer aujourd'hui n'est plus enseigné. Et c'est vrai, bon, cela concourt à la perte de nombreuses âmes aux grandes âmes du ciel, si on en croit les révélations publiques. Aujourd'hui, dans l'Église, on insiste sur la miséricorde de Dieu et on oublie sa justice. Vous connaissez peut-être la chanson de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis ». Je crains que si l'on fonde son espérance de salut personnel sur les paroles de Polnareff, on aille au-devant d'une grosse déconvenue à l'heure de notre mort. À moins que le Christ n'ait confié les clés du ciel à Michel Polnareff, bon, j'ai peut-être raté un verset dans l'évangile quelque part.
Eh bien, pour ma propre fin de vie d'homme, je vois bien, mais vous avez parlé tantôt d'une fin générationnelle. Qu'en est-il exactement ?
Tous ceux qui ont été dans l'espace et contempler la Terre reviennent avec le même sentiment de fragilité de notre planète microscopique, point bleu, flottant au milieu du noir infini, mais qui pourtant rassemble la somme de tous les êtres humains que nous connaissons et que nous chérissons, ceux qui ont vécu et ceux qui vivront après nous. C'est à ce sentiment de finitude auquel nous tend l'eschatologie de génération. À chaque génération, sa fin, en quelque sorte. Ainsi, pas de jaloux. Imaginez le sentiment de désolation d'un Romain au moment de l'effondrement d'un empire, ou d'un guerrier à la fin de l'empire sans rail, ou d'un prêtre inca à la chute de sa civilisation. Ah, toutes les splendeurs des royaumes du temps jadis qui encombrent aujourd'hui les musées. Ainsi, Dieu fait de même à chaque génération. Jésus dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Et sans doute en effet, aucune génération n'est passée sans l'annonce du Christ. Rappelez-vous, Dieu embrasse tout à la fois l'individu, la génération, le collectif et une génération toute particulière, la dernière génération. Ainsi donc, dans le message de la fin, tout est à la fois pour une génération en particulier et pour chacune des générations passées, présentes et futures. Paul Valéry le disait à sa manière. Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels.
Monsieur Eclou, le livre de l'Apocalypse parle d'une fin du monde.
Fin du monde ou fin d'un monde ? Bon, je vous l'accorde, sans tomber dans la guerre des mondes, la prophétie en parlant de fin définitive du monde tient là son côté sans doute le plus effrayant et le plus angoissant. Le lecteur en sort en se disant « Mais comment ? Tous ces milliards de vies d'hommes et de femmes, ces myriades et de myriades d'espoirs, de sommes d'amour et de souffrances qui auront été vécues sur cette terre pour arriver, vous savez, à l'image « The End » comme à la fin d'un mauvais film américain. C'est une terrible impression. » Oui, monsieur, et il faut bien se l'avouer. Les bonnes choses ont une fin, et les mauvaises aussi d'ailleurs.
Alors, monsieur Eclou, sommes-nous donc à la fin des temps ?
Cher ami, je ne sais pas si nous sommes à la fin des temps. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes à la fin d'un temps. Je vais nous situer en citant Churchill. Ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le commencement de la fin, mais c'est la fin du commencement. C'est une angoisse légitime. Tant l'évocation de la fin du monde est poignante. Et la réponse du Christ est cinglante. Pour ce qui est du jour et de l'heure, disait-il, personne ne le sait. Donc ce n'est pas la peine de triturer l'écriture, de faire des calculs cabalistiques, on ne trouvera pas la date. Mais le Christ dit aussi qu'il nous faut veiller, comme au temps de Noé. Car en ce temps-là, je le cite, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Il faut donc veiller et nous préparer et avoir de l'huile à profusion, comme les cinq vierges sages, si je puis me permettre. J'avais un chef dans l'armée qui disait souvent, sous forme de boutade, un homme averti en vaut deux. Un homme averti et entraîné en vaut quatre. Donc il nous faut nous entraîner spirituellement. Mais dans le même temps, le Christ nous dit qu'il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert. Alors, tendons modestement à répondre à votre question. Cette question, on l'a vu, chaque génération se l'est posée et y a apporté sa réponse, car la Bible tout entière est un livre de prophétie. C'est à nul doute la façon la plus commode pour Dieu de nous convaincre de sa puissance. On se souvient du « Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié trois fois, Pierre, dans sa pierre. » Et on se souvient aussi du « Il ne restera pas pierre sur pierre. » Hein, de Jésus, donné 30 ans avant la destruction du temple de Jérusalem. Voir du homme de douleur habitué à la souffrance, vous vous souvenez d'Ésaïe, mais Ésaïe c'est 700 ans avant le Christ. Et la Bible fourmille de centaines et de milliers d'exemples de ce genre. Mais les catholiques ont en plus à leur disposition les révélations publiques lors des apparitions reconnues, notamment celle de la très sainte Vierge Marie à Fatima, par exemple, au Portugal, du 13 mai au 13 octobre 1917. Notre-Dame nous dit « La Russie répandra ses erreurs à travers le monde ». Ça, elle nous le dit quelques jours avant la révolution bolchevique. Elle annonce aussi la fin de la première guerre pour le Portugal. Et effectivement, le pays a retiré ses troupes du front 7 mois avant la fin de la guerre. Elle annonce le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la vision du troisième secret de Fatima qui a fait couler tant d'encre et de salive. Mais là, la prophétie n'est qu'accessoire au cœur du message de la très sainte Vierge Marie, qui appelle surtout à la dévotion à son cœur immaculé, à la conversion et à la pénitence. Le miracle du soleil du 13 octobre 1917, lors duquel de 50 à 80 000 personnes présentes sur les lieux trempés jusqu'aux os, ont été littéralement et instantanément séchés. Bref, le miracle comme la prophétie sont aux yeux du ciel accessoires au cœur du message. L'annonce d'une période, disons, de tribulation pour l'Église, on va en baver sérieusement, car l'Église c'est nous tous, hein, il ne faut pas se leurrer. Donc Fatima, c'était il y a 100 ans. Fatima est très connue et le lieu est facilement accessible. Ce qui est moins le cas de la Salette, c'est pour ça, montagne du sud de la France, où Notre-Dame apparut à deux enfants le 19 septembre 1846. Annonçant la grande disette qui sévira quelques mois plus tard dans le pays, comme un prélude à la famine de l'Apocalypse de Jean. Et là, on pense au cavalier noir, vous savez, celui qui tient la balance là, et qui pèse je sais pas, le froment. Voilà. Donc, à la Salette, on annonce une église, Notre-Dame annonce une église persécutée. Un pape sur lequel on va tirer, mais on ne lui pourra rien, comme elle dit. Je pense que Jean-Paul II a dû se reconnaître. Plus près de nous dans le temps, Akita, au Japon, en 1973, là, Notre-Dame annonce les terribles châtiments du Père sur le monde entier, à toute l'humanité, comme elle dit. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et je la cite. « Un feu tombera du ciel et va faire disparaître une grande partie de l'humanité. » Fin de citation. « Si les hommes ne se répandent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes. Un feu faisant périr les bons comme les mauvais. » Je la cite encore. « Les survivants seront si désolés, ils enverront les morts. » Une exhortation à prier pour l'Église et pour nos pasteurs qui seront les plus affligés. Plus près de nous géographiquement, Kibéou, au Rwanda, Notre-Dame, là, dans ce pays, Notre-Dame en larmes, la mère du Verbe, comme elle s'est présentée aux voyantes, annonce aux Rwandais en 1981 le génocide qu'ils vont vivre en 1994, etc., etc., etc. Je crois qu'il n'y a pas une seule terre sur cette planète où la Très Sainte Vierge Marie ne soit passée et repassée pour appeler, exhorter, implorer les hommes à la repentance, la prière et la conversion. Pas une seule. Si ce n'est pas en révélation publique, cela a été à tout le moins en révélation privée. Quand le ciel se remue autant pour notre salut, nous ne devons pas faire la sourde oreille.
Voilà de sombres perspectives en effet.
Non, je ne voudrais pas finir sans une note d'espoir. Car c'est cela même le but de la prophétie dans la tradition chrétienne. Il faut le rappeler. Outre le fait, déjà, qu'on peut se tromper dans l'interprétation des textes et des signes, que rien n'est écrit d'avance, et que tout dépend de notre comportement à la fois individuel et collectif. Après l'évocation de ces moments pénibles, toutes les prophéties eschatologiques nous assurent d'un temps merveilleux de paix et de communion avec notre Dieu. Mais avant cela, c'est vrai, le temps de purification, tout est négociable. L'intensité, les lieux, la date, tout. Je pense à Abraham. Vous savez qu'il négociait pied à pied avec le Seigneur pour tenter d'épargner Sodome. Si, vous savez, c'est le dialogue là. Si je pouvais trouver 50 justes, Seigneur, est-ce que tu épargnerais la ville? Le Seigneur dit oui, si tu trouves 50 justes, je vais épargner la ville. Et puis 40, Seigneur, si tu trouves 40, oui, et puis 20, puis 10. Seulement le Seigneur dit oui, si tu trouves 10 justes dans la ville, je vais épargner la ville. Bon, Sodome a manqué de chance. Les 10 justes qui résidaient habituellement étaient en déplacement ce jour-là. Bon, donc le châtiment s'appliqua implacablement. Non, au-delà de la plaisanterie, l'affaire est sérieuse. En ce temps de pandémie, nous voyons comment nos sociétés technologiques et technocratiques qui ont tout misé sur la science et sur leur propre suffisance et rejeter le Seigneur. Nos sociétés sont maintenant secouées par un virus de quelques microns de diamètre qui a créé sur toute la Terre 750 millions de chômeurs en quelques semaines, a éteint net les économies sans que personne ne sache véritablement où se trouve le bouton on. Non, les hommes et les femmes confinés sous couvre-feu, avec ou sans masque, immunisés, malades ou guéris, angoissés à l'extrême, ont maintenant le temps libre à loisir pour réfléchir à l'état moral de ce monde et de cette génération, et au véritable sens de la vie, à la place qu'il faut savoir accorder aux choses essentielles. Ils arriveront, je l'espère, à l'évidence indépassable, qu'ils ont toujours soupçonné d'ailleurs dans leur fort intérieur. Si Dieu est le premier servi, tout le reste est accordé en surcroît. Bon, je ne sais pas si Dieu a fait l'école de guerre, mais manifestement, s'il veut reprendre la main sur cette terre, il aura là une occasion unique. J'en finirai en citant Churchill. Si nous ne prenons pas le changement par la main, il finira par nous prendre par le cou. Donc il nous faut changer notre cœur et il nous faut changer aujourd'hui.
Nous allons également reboucler avec le père Marie-Lucas qui nous rejoindra dans ce voyage. Quelles questions souhaiteriez-vous lui poser ?
Au père Pierre-Marie, j'aurais des dizaines de questions à poser, mais je me restreins à celle-ci qui à cette heure me taraude l'esprit, effectivement. Eschatologie, fin dernière ou fin première ? Et une autre question qui me taraude, c'est comment le message eschatologique peut-il être un soutien à la foi ? Et enfin, la souffrance salvifique de la prophétie eschatologique peut-elle être dépassée ?
Merci Daniel Eclou pour cet entretien sur Radio Théolis.
Ben c'est moi qui vous remercie pour tout et je salue chaleureusement les auditeurs et auditrices de Radio Théolis.
Une radio pour toutes les générations, Radio Théolis.
Une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Inspire cette œuvre qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Oh. sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ.